Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Comment lutter contre la secte islamiste Boko Haram? Un sommet a lieu aujourd'hui au Nigeria. François Hollande est le seul chef d'État occidental à y participer. Analyse à suivre de Claude Guibal, notre envoyé spécial à Abuja. Nous irons au Liban où notre correspondante nous donnera les derniers éléments après l'assassinat du commandant militaire en chef du Hezbollah en Syrie. Un moine bouddhiste tué à la machette au Bangladesh. Le pays est frappé par une série de meurtres, notamment ces dernières semaines. Décryptage à suivre avec Nabila Hamel. À Rennes, après les violences d'hier soir entre casseurs et forces de l'ordre, la manifestation interdite est pour l'instant encore annoncée. Sur place, Brigitte Hugues fera le point en direct. Et puis nous irons à Cannes rejoindre la directrice de France Culture, Sandrine Trainer. Elle nous présentera le lauréat du prix Consécration France Culture, Frédéric Wiseman, réalisateur et documentariste distingué pour l'ensemble de son œuvre. Au Nigeria, le sommet international sur la sécurité va bientôt s'ouvrir. François Hollande est présent, c'est le seul chef d'État non africain sur place. Pour les participants, l'enjeu est de taille, mettre fin à la terreur exercée par la secte islamiste Boko Haram, responsable de milliers de morts et de l'enlèvement des lycéennes de Chibok. Ses liens avec le groupe djihadiste État islamiste inquiètent très fortement le Conseil de sécurité de l'ONU. À Abuja, le point sur la situation en ce moment dans le pays avec Claude Guibal.
C'est un géant, mais un géant fragile que François Hollande visite aujourd'hui. Un an après son élection, le président Buhari règne à la tête d'un Nigeria frappé de plein fouet par la chute des prix du pétrole, un prix divisé par trois, alors que les hydrocarbures représentent 80% du budget de l'État. Une monnaie en chute libre, une économie qui dévie, c'est bien sûr Boko Haram. Boko Haram à qui l'armée nigériane se vante d'avoir infligé des coups sévères en reprenant le contrôle de zones au nord du pays. De fait, le mouvement terroriste est affaibli, mais il multiplie les attentats. François Hollande entend donc réaffirmer le soutien de la France dans cette lutte. La France qui aide la coordination régionale avec de la formation de militaires, de la transmission de renseignements, de la lecture d'images satellites. Dans le cadre de l'opération Barkhane, des rafales contribuent à la surveillance du nord-est du pays. Et sur ces questions sécuritaires stratégiques, Paris sait qu'il y a une carte à jouer, alors que le Nigeria vient d'afficher son intérêt pour l'achat d'avions américains pour lutter contre Boko Haram.
Claude Guibal. Pour le Hezbollah, ce sont des groupes islamistes qui ont tué son commandant militaire en chef, Mustapha Badreddin. Le parti armé libyen qui combat en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad l'affirme aujourd'hui dans un communiqué. À Beyrouth, le décryptage de notre correspondante Sybille Risque.
Ce sont vers les groupes takfiristes que le Hezbollah dirige ses accusations, et non pas vers Israël, son ennemi de toujours. Un missile tiré d'une zone tenue par les opposants djihadistes au régime de Bachar el-Assad est responsable de l'explosion qui a tué Mustapha Badreddin, affirme ce matin le parti chiite libanais dans un communiqué. Aucun survol aérien de la zone, près de l'aéroport de Damas, n'aurait été signalé pour accréditer la thèse d'un raid aérien israélien. Cette disparition est une grosse perte pour le Hezbollah qui est engagé militairement en Syrie depuis 2013 et y a perdu un millier d'hommes et au moins l'équivalent de 5 généraux. Homme de l'ombre, suspecté par le tribunal international d'être l'un des responsables de l'assassinat de Rafik Hariri en 2005, Mustapha Badreddin avait remplacé son beau-frère Imad Mornier à la tête des opérations du Hezbollah en Syrie. Comme celle de Mornier attribuée alors à Israël, son élimination suscite beaucoup d'interrogations relayées par la presse libanaise et arabe. Elle est forcément le fait de services de renseignement d'un État puissant, relève le quotidien Al-Akhbar, proche du Hezbollah, car Badreddin se trouvait dans une zone en principe sécurisée par les forces iraniennes et syriennes. Pour l'instant, aucun groupe djihadiste opérant en Syrie n'a revendiqué l'opération, s'étonne de son côté un journaliste de la chaîne Al Jazeera.
Sybille Risque, notre correspondante au Liban. On part maintenant au Bangladesh. Au moins un moine bouddhiste a été assassiné à coups de machette dans le sud-est du pays. Ce meurtre vient s'ajouter à la liste de dizaines d'assassinats ces dernières années. Et ces dernières semaines aussi, le groupe État islamique et la branche locale d'Al-Qaïda ont revendiqué des dizaines de meurtres, Nabila Hamel.
Ce n'est que le dernier d'une série bien longue dans un pays sous tension, surtout depuis la pendaison mercredi du chef du principal parti islamiste. Il avait été condamné à mort pour des crimes de guerre qui remontent à la guerre d'indépendance de 1971 avec le Pakistan. Ces dernières semaines, les groupes islamistes ont en tout cas profité de la crise politique et de la faiblesse du pouvoir pour s'en prendre à tous ceux qui pouvaient représenter une liberté de parole, de pensée ou de mode de vie. Des attentats souvent souvent à la machette, ont visé des blogueurs, des intellectuels, des enseignants qui s'en prenaient au discours extrémiste des religieux et défendaient la laïcité. Et comme pour le moine bouddhiste ce matin, ou des membres de la communauté hindoue, ces groupes s'en prennent également aux autres communautés religieuses. Autre cible de ces attaques, deux membres du mouvement gay du Bangladesh tués il y a 15 jours. Le Bangladesh est un pays officiellement laïque depuis qu'il s'est séparé du Pakistan, mais en 1988, le régime militaire a élevé l'islam au rang de religion d'État afin de consolider son pouvoir. Un statut de religion officielle contesté récemment, car jugé contradictoire avec la Constitution et discriminatoire envers les autres religions. Toutefois, le gouvernement, dirigé par Mme Sheikha Hasina, a promis de ne pas ratifier une loi qui heurterait, dit-elle, les principes de l'islam.
Nabila Hamel. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro vient d'annoncer l'état d'urgence alors que la contestation grandit. Il justifie cette mesure en mettant en avant des informations provenant du renseignement américain. Camille Marigot, bonjour.
Bonjour.
Alors, ces informations portent sur les risques de renversement du pouvoir en place dans un pays économiquement à bout de souffle.
Et Nicolas Maduro qualifie ces déclarations nord-américaines de menaces. Pour lui, un coup d'État se prépare depuis Washington et l'opposition de droite dans son propre pays. Après une pétition qui a rassemblé plus de 2 millions de signatures, les rivaux du président réclament un référendum sur son départ. Une grande manifestation est d'ailleurs prévue aujourd'hui par les anti-Maduro pour presser le gouvernement d'autoriser rapidement cette consultation. Pour le président, les déclarations nord-américaines prouvent l'ingérence des États-Unis dans les affaires vénézuéliennes avec la complicité de l'opposition qu'il qualifie de fasciste. Après l'éviction de Dilma Rousseff par la droite au Brésil, il craint lui aussi de disparaître du paysage. L'urgence politique et économique, les coupures d'électricité sont quotidiennes, les services publics en berne, les commerces à moitié vides sont pillés et la population en arrive à lyncher elle-même les voleurs. Le chef d'État a donc prolongé de 3 mois une mesure qui permet à l'exécutif de contrôler le secteur privé, ce qui fait craindre à l'opposition une multiplication des expropriations. L'an dernier, l'inflation a dépassé les 180% et avec la chute du prix du pétrole, première ressource du pays, le produit intérieur brut a baissé de plus de 5%.
Merci Camille Marigot. Le Brésil justement, où les habitants connaissent maintenant leur nouveau gouvernement et les grandes lignes du programme, ont été annoncées hier par le nouveau président par intérim Michel Temer, conséquence de la procédure de destitution dont fait l'objet Dilma Rousseff. Pour sortir de la crise politique et économique, il prévoit notamment une réforme des retraites et des coupes budgétaires. Le gouvernement est déjà très critiqué. Sur les 24 ministres, aucune femme, que des hommes blancs et conservateurs, et parmi eux, 7 sont cités dans le scandale Petrobras. À Rennes, la manifestation contre les violences policières, pourtant interdite, est toujours bien prévue à la mi-journée. Hier soir, plusieurs devantures de banques ont été fracassées à coups de barres de fer. Affrontement entre casseurs et forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Et Brigitte Hugues, vous êtes sur place sur l'esplanade Charles de Gaulle. Quelle est la situation en ce moment ?
Les manifestants arrivent peu à peu sur l'esplanade Charles de Gaulle, donc pour ce rassemblement contre les violences policières. 400, 500 personnes pour le moment, quelques étudiants de Rennes 2, des anciens occupants de la salle de la cité, celle de la cité qui a été évacuée hier matin, quelques membres du NPA, un orchestre, vous entendez. Mais semble-t-il, pas de casseurs, en tout cas visibles. Ce qui est sûr, c'est que le nombre de CRS est au moins aussi important que le nombre de manifestants. Le déploiement des forces de l'ordre est impressionnant. Des estafettes, des camions anti-émeutes sont garés dans les rues alentours et du côté de la place de la mairie et du Parlement. Après l'heure et la casse d'hier soir dans le centre de Rennes, les rues sont désertes autour de l'esplanade de Gaulle. Très peu de voitures sont stationnées, même la station métro a été fermée et les entrées de la gare voisine sont filtrées. Les banques et les commerces qui ont eu leurs vitres brisées hier soir se sont barricadées. Des panneaux de bois ont été cloués sur les vitrines en urgence. Beaucoup de magasins du centre vont rester fermés aujourd'hui par crainte de la casse. Les commerçants lassés se disent qu'il n'y aura de toute façon pas de clients à venir encore ce samedi. Le climat est pesant, dit un vendeur. Et on vient d'entendre quelques slogans comme « état d'urgence, état policier ». On ne nous empêchera pas de manifester, mais pour l'instant, le défilé n'a pas commencé.
Merci Brigitte Hugues de France Bleu Armorique. Anne Lauvergeon, mise en examen depuis hier soir, l'ancienne patronne du géant nucléaire Areva est soupçonnée d'avoir présenté et publié des comptes inexacts et d'avoir diffusé de fausses informations dans l'affaire du rachat de la société canadienne Uramin en 2007. Une opération qui s'était soldée par un fiasco financier. On part maintenant à Cannes, au Festival international du film. Notre invitée est aujourd'hui la directrice de France Culture, Sandrine Trainer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur la
Bonjour,
croisette.
Bonjour, écoutez, oui, je suis... Oui, enfin oui, juste tout à côté sur le port, en l'occurrence sur l'espace d'Unifrance, Unifrance dont la directrice générale Isabelle Giordano est avec nous, et on va essayer de vous faire vivre en quelques minutes ce que nous avons vécu de 11h à midi sur un temps un peu plus long. Oui, c'est le retour à Cannes, et c'est surtout l'occasion de dire notre goût pour le cinéma, pour le cinéma de partout dans le monde, pour un cinéma d'auteur, un cinéma engagé. Et le prix consécration cette année a été décerné par un jury interne de France Culture à Frédéric Wiseman. Frédéric Wiseman, en un mot, c'est un très grand documentariste, une quarantaine de très grands documentaires qui, à travers des institutions culturelles, sociales, un hôpital, c'est ce que l'on a vu hier dans le cadre de Cannes Classique, brosse une sorte de grand portrait du monde. Et son dernier film, In Jackson Heights, est toujours en France sur les écrans et permet, n'est-ce pas, Frédéric Wiseman, vous avez peut-être un tout petit temps pour nous dire ce qu'est In Jackson Heights.
Oui, premièrement, je suis très content d'être ici et avoir le prix. Jackson Heights, c'est un film dans un quartier très multiculturel, multiracial à New York. On parle 167 langues, il y a des gens de partout de l'Amérique du Sud, d'Asie. Et cette communauté d'émigrés assez récente, et le film suit le vie quotidienne en essayant de vivre le rêve américain.
Merci beaucoup, Frédéric Wiseman. Alors, je suis à côté d'une jeune étudiante, Mélodie Cholmet, qui est, figurez-vous, Sophie, une des 300 étudiants qui ont voté pour le prix France Culture Cinéma des étudiants. Et le gagnant est...
Donc on est très heureux de remettre ce prix aujourd'hui à Toto et ses sœurs d'Alexander Nano, un film qui nous a beaucoup bouleversés, qui dépeint une réalité sociale très dure, avec un regard plein d'espoir et très optimiste.
Oui, un documentaire, là encore.
Tout à fait, un documentaire qui se rapproche presque même de la fiction dans certains sens, où justement on se rend compte que ces personnes sont presque aussi des personnages, tellement on s'identifie à eux, et tellement ils sont brossés, ils sont vus à travers la caméra extrêmement bienveillante d'Alexander Nano.
Voilà, Alexander Nano étant un jeune cinéaste allemand, mais qui vit en Roumanie, qui tourne d'ailleurs à Bucarest, qui a été, il nous l'a dit tout à l'heure, un grand admirateur de votre travail, Frédéric Wiseman, et son film Toto et ses sœurs sortira en DVD soutenu par France Culture dans les jours à venir. Et Isabelle Giordano, le mot de la fin, vous avez vous-même avec nous ce matin décerné des prix importants.
Le mot de la fin, c'est le mot de la jeunesse, de l'envie de liberté, de l'envie de voir du cinéma, de l'envie de réfléchir partout dans le monde et notamment dans cette école de cinéma dans le monde entier, en Corée, en Australie, en Israël, aux États-Unis. Il existe des jeunes qui aiment voir des images, il existe des gens qui sont peut-être pas assez nombreux encore, mais des gens qui aiment réfléchir sur le cinéma d'auteur comme le cinéma de Wiseman. Eh bien, ils ont voté grâce à France Culture et Unifrance pour leur film préféré qui est Mustang de Denise Kamzer-Guven. Et merci à France Culture de créer du lien entre tous ces jeunes du monde entier.
Merci beaucoup Isabelle Giordano. Je voudrais simplement dire à nos auditeurs que tout ça, c'est pas uniquement à Cannes, c'est en partage, c'est des films qui sont sur les écrans, que l'on peut revoir en DVD. Et cet après-midi, Frédéric Wiseman et Alexander Nano seront au micro en direct de Michel Simon. Ce sera dans Projection Privée, ce sera à 15h et merci beaucoup de ce temps accordé au cinéma sur notre antenne.
Merci à vous Sandrine Trainer, et pour continuer de vous faire vivre ce festival, on retrouvera aussi Antoine Guillot à 18h et tous les matins pour le portrait du jour à partir de lundi. Et la grande table aussi lundi, mardi et mercredi accueillera les cinéastes de la sélection. Tout un assortiment à retrouver sur franceculture.fr. Le temps, du soleil en majorité sur le littoral, des orages en revanche annoncés sur les Alpes-Maritimes, ciel voilé partout ailleurs avec quelques averses sur l'Alsace, l'Auvergne et Midi-Pyrénées, température comprise entre 11 et 22 degrés.